Interdiction de sortir après 21h, sauf pour les salariés munis d'une dérogation. Dès demain minuit et jusqu'à fin novembre, 20 millions de Français vont vivre sous couvre-feu dans les grandes villes les plus touchées par la Covid-19. Emmanuel Macron appelle à prendre soin les uns des autres.
Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part.
Au printemps dernier, lors de la première vague, les Français ont bien respecté le confinement. 2 mois de vie comme entre parenthèses, avec chaque soir à 20h des applaudissements pour soutenir les soignants. Face à la deuxième vague et aux restrictions par zone, beaucoup de Français avouent leur lassitude.
Il faudra sortir plus tôt du boulot, manger plus tôt. Il faut essayer de garder la vie sociale qu'on a, sinon... Bien sûr que ça va être dur.
La cohésion nationale est une nouvelle fois mise à l'épreuve. Et chez les jeunes, moins vulnérables, tout le monde ne se sent pas concerné.
Égoïstement, on se dit, c'est pas nous qui sommes en danger. Les seules personnes que je vois, c'est des gens de mon âge qui sont consentants de me voir sans masque, en train de boire un verre. Donc on peut avoir l'impression que c'est contre nous.
Pourtant, hier soir, le chef de l'État s'est refusé à stigmatiser la jeunesse.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible.
Alors les Français vont-ils accepter de sacrifier encore un peu plus leur liberté au nom de la solidarité avec les plus vulnérables? Ou le couvre-feu risque-t-il de fracturer la société par territoire ou par classe d'âge?
C'est une question de téléspectateurs que je vous lis. Le virus est là pour des mois au moins. Faut-il prévoir une reprise du couvre-feu ou même d'autres mesures après la trêve de Noël? Axel Kahn, on a entendu hier Emmanuel Macron dire qu'il n'y aurait pas d'éclaircie sur le plan médical, sanitaire avant l'été 2021. Est-ce que ça veut dire que ces mesures peuvent durer 8 mois jusqu'au début du printemps, par exemple?
Alors, le but des mesures qui sont prises, ou d'autres mesures qui pourraient être prises, c'est sans aller jusqu'au reconfinement général, qui est très efficace pour faire diminuer la circulation virale, d'obtenir néanmoins la circulation virale. Si par conséquent, c'est une réussite, alors on pourra lever ces mesures qui sont prises par le politique et évidemment sans refaire l'erreur qui a été faite après le déconfinement, parce que la grande caractéristique de ce qu'on a vécu est que le confinement généralisé du point de vue sanitaire a été très efficace. Après le déconfinement, d'abord les Français l'ont très bien respecté, oui. Et après le déconfinement, le niveau résiduel de circulation du virus était très bas. Mais il n'y a pas eu assez de mise en garde sur le fait que, certes, le niveau de circulation était bas, mais oui, le virus circulait et qu'il fallait continuer de prendre des précautions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est éclaté. On en avait absolument assez du confinement. En plus, ils se sont éclatés dans le Grand Sud, dans le Grand Ouest.
Mais Emmanuel Macron avait dit, c'est le retour de la vie, c'est le retour de la fête, on a le droit d'être
heureux. Oui, absolument, mais il y a une erreur. Je veux dire que ce qui est très embêtant politiquement, mais ça, c'est mon voisin qui en parlera, c'est pas moi, c'est que celui qui était chargé du déconfinement a une position intéressante.
Jean Castex, pour ne pas le citer.
Et que le déconfinement est aussi raté que le confinement a été réussi.
Olivier Duhamel, avant...
Ça commence par des erreurs de mots. On n'aurait jamais dû dire déconfinement.
On aurait dû dire
confinement allégé. Ah. Et même aujourd'hui, on ne devrait pas dire couvre-feu, confinement renforcé et nocturne.
Confinement nocturne, je propose.
D'abord, ça décrit mieux la réalité. Si on avait dit confinement allégé, les gens ne se seraient pas à ce point-là relâchés. Mmh. Et c'est curieux qu'on ne trouve pas les bons mots.
Alors, on va continuer ce débat en se concentrant sur le dilemme entre la santé et les libertés avec votre chiffre du jour.
Oui, Frédéric. Le chiffre, c'est 73% des Français sont favorables à ce couvre-feu, puisque c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron hier soir lors de son interview. 3/4 des Français favorables tout de même à cette restriction massive de liberté. C'est rassurant ou c'est inquiétant, Olivier Duhamel?
C'est difficile de répondre à cette question. C'est plutôt rassurant sur un point, c'est que notre pays se caractérise par une très très grande défiance des citoyens à l'égard du pouvoir. Et que, c'est très très difficile quand on est le pouvoir politique de gérer une crise comme celle-ci, où on sait très peu de choses, où ça change tout le temps, où on ne comprend même pas comment ça circule, etc. Que donc 3 sur une mesure... Sur une mesure dure, il y a une approbation, disons, sur l'état psychologique du pays, ça, c'est rassurant. Après, le bémol, ça deviendrait inquiétant s'ils acceptaient n'importe quoi.
Mmh. Isabelle Véramasson, revenons au choix de ce mot. Couvre-feu, symboliquement, ça vous évite quoi ? Ça vous évoque quoi ? Et puis, à contrario, confinement renforcé, ça aurait été... mieux.
Oui, alors confinement renforcé, je pense qu'il n'y avait pas de confinement avant. Je pense aussi, pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il n'est pas juste de dire qu'au moment du déconfinement, on a dit aux gens qu'il n'y avait plus de virus et qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. On l'a dit aux gens qu'il fallait faire attention, mais il y a eu un problème de réception, comme on dit en sociologue des médias, et que personne n'a eu envie d'entendre cela. On n'a pas envie d'entendre ce qui vous déplaît. Mais si on avait écouté vraiment ce qui était dit par les scientifiques qui quand même étaient là pendant l'été, moi je suis allée en Italie et on ne parlait que de ça, c'est-à-dire les gens mettaient un masque, quand on rentrait on mettait des masques, donc c'est pas tout à fait vrai de dire que ces espèces de politiques ridicules et stupides on fait comme s'il n'y a pas de virus, voilà, donc c'est ça que je voulais dire.
Ils n'auraient quand même pas dû dire déconfinement, je maintiens.
D'accord. Alors là, on va revenir sur la définition des mots. Je pense quand même que dans le mot confinement, il y a l'idée d'être confiné, c'est-à-dire de rester chez soi ou de rester dans un endroit, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on a eu le droit de sortir absolument de manière totalement libre, même si on avait un masque. Et là, alors le choix du mot couvre-feu, c'est intéressant de voir que ce n'est pas tout à fait Emmanuel Macron qui a choisi
ce mot. C'est la presse ?
Rappelez-vous que nous étions tous demandés, parce qu'on connaît notre Emmanuel Macron, et on sait à quel point il a le goût des mots, le goût de la discussion sur les mots et le choix du vocabulaire.
Le mot guerre, c'était pas formidable.
Il avait choisi de ne pas utiliser confinement. Il avait choisi un certain nombre de. Il fait des choix sémantiques, le quoi qu'il en coûte, qui parfois lui coûte, le plus souvent quand même. Ouais. Et là, il me semble qu'il a pris la version la plus prudente hier soir. Il a pris la version pédagogique, simple, le fait, c'est-à-dire je reprends le mot qui a été utilisé dans la société, je ne joue pas avec la sémantique et avec les idées, j'accepte la pédagogie à la Édouard Philippe. Mais le mot encore couvre-feu, pour juste terminer sur ce que vous me demandiez, n'est pas un mot terrifiant. C'est un mot ancien qui veut dire prenons nos précautions, éteignons les lumières, c'est un mot du Moyen-Âge qui a été utilisé dans des cas un peu tragique, mais ce n'est pas non plus forcément l'idée de la guerre. C'est l'idée du danger. Eh bien, dans le Covid, il y a du danger. Donc, on n'est pas loin quand même de la réalité.
Tout d'abord, je reste dans mon rôle. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de donner des conseils médicaux. Et comme je suis le président de la Ligue et que les 4 millions de personnes qui ont eu le cancer et qui en sont encore affectées ont été particulièrement éprouvées, je cherche de toutes mes forces, parce que c'est mon devoir, à donner des conseils pour les protéger, c'est cela. Et donc, je ne fais pas de politique dans cette affaire-là. J'indique si une mesure me semble de nature à assurer cette protection. On est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est la meilleure protection, parce que de toute façon, si la maladie se diffuse, c'est très mauvais pour l'économie. Mais si on refait le confinement, c'est très mauvais pour l'économie. Donc, on est sur le fil du rasoir. On ne sait pas exactement, parce que c'est difficile de faire des clusters dans le métro. Mais il n'y a pas énormément de contamination, pas tant que ça dans le métro, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour une raison très claire. C'est qu'on se contamine quand on envoie de l'aérosol et quand on cause. Or, on reste très court dans le métro, en règle générale. Donc, il doit y en avoir, si vous voulez. Voilà. Mais c'est typiquement le compromis. On peut trouver que c'est absurde, mais il faut également que le pays continue de travailler un peu. Et il y a besoin de gens qui vont au travail. Et donc, je prends cela comme ça. Dans le métro, j'essaye d'être aussi loin que possible des autres et je reste quoi ?
Il existe qui va s'installer ou qui va se renforcer.
C'est cette maladie qui fait ça. Hein. Cette maladie, elle différencie les seniors des personnes âgées, elle différencie les personnes en surpoids et ceux qui n'ont pas ce problème-là. Et souvent, même les hommes et les femmes. Apparemment, il y aurait même des différences selon l'origine ethnique. Donc c'est une maladie, ça c'est drôle.
Elle ça a été remarqué aux États-Unis.
Exactement. Donc elle n'a pas apparemment les mêmes critères politiquement corrects que nous. Et elle ne fait pas attention à la discrimination. C'est la nature, quoi, d'une certaine manière. Et c'est là que nous ne sommes pas la nature, nous, et notre société, et là, comme la plupart des sociétés développées, nous nous battons contre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du progrès par rapport à la nature, c'est de compenser l'injustice qui vient de la nature. Et je crois que le gouvernement, depuis le début, ou presque le début, essaye de ne pas accentuer cette fracture entre les générations. Ce qui m'intéresse, c'est que les médecins ont eu cette tentation, peut-être parce qu'ils sont plus proches de la nature. On a vu ou deux médecins signaler qu'il était quand même assez simple de confiner les plus 60 ans, et comme ça, tout le monde pouvait vivre librement et mélanger et se contaminer sans que les maladies soient trop graves.
Mais il serait mort de chagrin.
Il serait... Alors, c'est pour ça, pour ça que le politique est intervenu et qu'il a mis
en jeu... différence entre le... Enfin, on rentre dans la biopolitique, on sauve la vie, mais il n'y a
plus
d'humanité.
C'est pour ça que je parlais de nature par rapport à la culture. Ouais. C'est-à-dire que la nature, effectivement, elle fait une discrimination, la nature, elle fait une différence, et la culture, c'est, c'est de considérer que ces différences ne sont pas de nature et qu'on peut les modifier parce qu'il y a des intérêts supérieurs aux intérêts de la nature.